Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. J'aimerais commencer par une prière avant de partager avec vous la parole. Seigneur Jésus-Christ, par toi le monde a été créé. En toi nous voulons vivre, avec toi nous voulons marcher. Apprends-nous à marcher. Apprends-nous à regarder dans la bonne direction. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à vivre une vie qui a du sens. Apprends-nous à vivre dans un monde fragile, dans un monde où l'économie est fragile, nos familles sont fragiles, notre santé est fragile. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à trouver le roc de ton amour, le roc de ta tendresse, afin qu'ensemble, en tant que communauté, ensemble, en tant que chrétiens, ici et dans d'autres parties du monde, nous avancions avec assurance et foi à ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 24, deuxième partie. Comment vivre dans un monde fragile? La semaine dernière, nous avions partagé sur comment les disciples avaient demandé à Jésus de leur dire à quel moment est-ce que le temple serait détruit et aussi de parler de la fin des temps. Je vous relis la question que les disciples avaient posée à Jésus au chapitre 3, au chapitre 24, pardon, au verset 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dans ce verset 3, quand cela arrivera-t-il? C'était en réponse à la question à l'observation de Jésus qui avait dit, le temple sera détruit. Et nous allons continuer dans notre texte aujourd'hui en voyant comment, eh bien, Jésus va donner encore quelques éléments sur ce qui se passera quand le temple va être détruit, et vous allez au milieu du texte d'aujourd'hui percevoir la rupture claire entre la description d'un côté de choses qui allaient se passer dans la génération de Jésus, la destruction du temple, car le temple serait détruit 40 ans après la mort de Jésus, ce qui signifie que certaines des personnes qui ont entendu Jésus parler verront la destruction de ce temple. Ça sera dans leur génération. Par contre, après, à la fin du texte, nous verrons que c'est une autre dimension. Il ne sera plus fait mention de signes. Nous allons voir que le but de Jésus n'est pas de donner des signes. Le but de Jésus, c'est nous apprendre à marcher. Et pour vivre dans un monde fragile, il faut que nous apprenions à marcher de manière ferme, au lieu de chercher des signes qui remplaceront cette marche, car aucun de ces signes pourra le remplacer. Alors que nous allons le voir encore très clairement dans le texte d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par vous lire les versets 23 à 31 de ce chapitre 24, qui sont intitulés La venue du Fils de l'homme. De manière un peu surprenante d'ailleurs, comme nous le verrons. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert ou n'y allez pas, voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Parole de notre Seigneur. Comme nous le voyons dans ce texte, dans les versets 23 à 26, Jésus nous dit « Il y aura des faux Christs, il y aura des faux prophètes qui viendront et qui essayeront de séduire par des miracles et des prodiges. » Et Jésus dit « Ne vous attardez pas à écouter cela. Sachez que cela doit venir. » Afin que ses disciples comprennent bien que ce n'est pas une question de signes. Il mentionne au verset 27 « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Dans ce verset 27, ce que Jésus explique, c'est que l'éclair va très vite. La lumière, c'est ce qui est le plus rapide dans l'univers tout entier. Quand la lumière part d'un endroit, elle arrive à l'autre extrémité quasiment de manière instantanée. Ce qui veut dire que quand on verra un signe de la venue du Fils de l'homme, il sera là. Et nous verrons plus tard dans les textes suivants que Jésus va le confirmer en expliquant que ce n'est pas un signe. Quand il sera là, il sera là. Il n'y aura pas plusieurs petites étapes et ensuite on va pouvoir voir Jésus. Ça sera de manière surprenante, sans qu'on s'y attende. Comme l'éclair qui traverse le ciel, qui déchire les cieux et qui, à la vitesse de la lumière, pénètre toute chose et traverse d'immenses distances. Les versets 28 à 31, sont difficiles à comprendre. Qu'est-ce que veut dire Jésus en disant « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles » Est-ce qu'il parle de sa mort et des personnes qui s'assembleront autour de la croix? Est-ce qu'il parle des cadavres qui seront autour de Jérusalem quand la ville sera détruite en 70 après Jésus, après la naissance de Jésus-Christ, ce qui fait à peu près 40 ans après sa mort? Est-ce que cela sera un signe dans le futur? C'est difficile à dire. Mais ce n'est pas le centre du texte. Le centre du texte, c'est de répondre à deux questions. La première, quand est-ce que Jérusalem sera détruite? Plus précisément, quand est-ce que le temple sera détruit? Deuxième question, comment reconnaître l'avènement, la venue du Fils de l'homme, le retour de Jésus? Dans les versets 29, et 30 et 31, il est fait mention de signes. Le fait que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Est-ce qu'il y a eu une éclipse de soleil au moment où il y a eu la destruction du temple? Peut-être, c'est difficile à dire. Les informations historiques que nous avons ne sont pas assez précises pour le dire. Ce qui est intéressant dans le verset 30, c'est que nous lisons « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Ce verset 30 parle d'un signe. Un signe, on le voit à l'avance, et on le voit se manifester. Et ce signe, c'est que il va envoyer, au verset 31, ses anges avec les trompettes retentissantes qui rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Est-ce que ce signe, c'est le retour de Jésus? Certains, des exégètes, ont dit oui, il nous semble que c'est le retour. D'autres ont dit non, il n'est pas fait mention du retour, il est fait mention que le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et déjà, peu de temps après la mort de Jésus, on va voir le signe de Jésus paraissant dans le ciel, debout. Ce sera au moment de la mort d'Étienne. Étienne dira « Je vois les cieux ouverts » et Jésus, debout, dans les cieux. Car Jésus va accueillir Étienne, le premier martyr, le premier chrétien à offrir sa vie en sacrifice à la suite de Jésus. Comme vous le voyez, ce signe peut être interprété de différentes façons. Il est fait mention de temps, il est fait mention des élus qui vont être rassemblés des quatre coins du monde. On peut penser que dans les premières années après la mort de Jésus, l'évangile va pénétrer dans tous les endroits du monde civilisé qui était connu alors. En quelques années, l'évangile va traverser toute la Méditerranée, va partir depuis Jérusalem jusqu'à l'Espagne, jusqu'à la France, jusqu'à l'Italie, même en Afrique du Nord, ce qui est devenu la Tunisie, le Maroc, deviendront des endroits où l'évangile va se développer très rapidement. Bien plus encore. Là, nous parlons de l'évolution vers l'Ouest. En quelques années aussi, nous croyons que l'évangile a pénétré jusqu'en Inde, aux portes de la Chine. Il y a des traces de chrétiens sur l'île de Malabar, en Inde, qui remontent au 1er siècle. Et on croit, la tradition chrétienne dit que c'est l'apôtre Thomas qui ira en Orient, jusqu'en Inde probablement, pour annoncer l'évangile, apporter l'évangile non seulement jusqu'en Irak, jusqu'en Iran, mais au-delà, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde d'aujourd'hui. Semble-t-il, il y a au moins un apôtre qui a été jusque-là. Tout cela pour vous dire que l'évangile, la bonne nouvelle, sera annoncée de manière incroyable et très rapidement, et que beaucoup découvriront la foi en Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et par conséquent, que des anges vont rassembler des élus des quatre coins des cieux, des quatre coins de la terre, dans les premières années, dans les premières 20-30 ans après la mort de Jésus déjà. Tout le texte nous parle de signes ici. Et rappelez-vous que Jésus, quand on lui demandait des signes, disait: faites attention, vous me demandez des signes, il ne vous sera donné qu'un seul signe. Le signe de Jonas, le fait que Jésus allait mourir et ressusciter 3 jours après. Et là, les signes sont clairement dirigés vers la destruction du temple, comme nous allons le voir dans les versets 32 à 35 que j'aimerais vous lire maintenant. Parole de notre Seigneur. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toute chose, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ici, il est mentionné vraiment un signe. Il leur dit tous ces éléments, quand vous les verrez arriver, sachez que ce que je vous ai prédit va se réaliser. Qu'est-ce qu'il a prédit? Il a prédit la destruction du temple. Et ici, il mentionne d'abord le parallèle avec le figuier. On peut penser qu'il a donné quelques éléments clairs. Par exemple, il a parlé de l'abomination de la désolation que l'on voyait au verset 15 du chapitre 24, qui serait dans le temple. Et on sait que le temple, juste avant d'être détruit, va être désacralisé. Il va y avoir des choses qui sont un déshonneur pour Dieu, un déshonneur pour les croyants, qui vont se passer dans l'enceinte du temple et dans le temple lui-même. On voit aussi que Jésus dit que ça ne va pas se passer, ce qu'il décrit, dans beaucoup de temps. Ça se passera dans la génération présente. Cette génération ne passera point, dit Jésus au verset 34. Et verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la destruction du temple, de fait, va se faire comme il l'a prédit dans la génération qui vient, ce qui se passera exactement 40 ans, ou presque à peu près 40 ans, après la mort de Jésus-Christ, en l'an 70 de notre ère. Jésus n'a pas été tué par surprise, il a donné sa vie. Tout comme il a donné sa vie, il savait ce qui allait lui arriver. Il savait ce qui allait arriver à Jérusalem, c'est pour ça qu'il a pleuré sur Jérusalem. Il savait aussi qu'il reviendrait, qu'il y aurait son avènement, et qu'à ce moment il y aurait un jugement. C'est ce qu'il va commencer à décrire de manière très précise à la fin du chapitre 24 que nous avons maintenant, aujourd'hui, et qu'il va continuer à décrire Dans le chapitre 25, dans son entier, que nous verrons dans les deux semaines suivantes, vous avez observé beaucoup de signes, beaucoup de détails au niveau historique dans les précédents versets. Et dans son ensemble, ces textes, dans leur ensemble, se réfèrent à la destruction du temple. Maintenant, je vous invite, alors que vous écoutez la parole de notre Seigneur dans les versets qui suivent, à observer comment Jésus enlève tout signe, enlève toute mention de durée et de possibilité de reconnaître quand ce qui est décrit maintenant va arriver. Déjà au premier verset, vous vous rendrez compte que c'était très clair. Écoutons la parole du Seigneur maintenant, versets 36 à 44. Veillez. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole de notre Seigneur. Si vous avez remarqué, le verset 36, Jésus dit quelque chose de très surprenant. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si Jésus-Christ, lui, le Fils de Dieu, ne sait pas, quand il reviendra, que cette connaissance, c'est le Père qu'il a, comment est-ce que vous pensez que Jésus pourrait donner un signe de son retour? Les signes qui précédaient étaient vraiment pour montrer comment Jésus était vraiment le Fils de Dieu, qu'il savait non seulement quand il allait mourir, comment il allait mourir, mais ce qui allait se passer dans la génération qui suivrait. Cet événement catastrophique pour le peuple juif de l'époque, qui a été la destruction du temple. Maintenant, Jésus parle d'un temps où nous serons surpris. Comme au temps de Noé, les gens ne se sont pas rendus compte qu'il y allait avoir quelque chose de catastrophique, qu'il y allait avoir le déluge. Les versets 40-41 nous disent « Deux hommes seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre laissé. » Ce qui veut dire que ces personnes n'ont rien vu venir. Deux femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et donc cela touche homme, femme, chacun d'entre nous. Chacun de nous, nous aurons un jour à faire face au Christ. Cela sera soit à notre mort, au jugement qui en suivra, ou bien avant, si notre Seigneur Jésus-Christ revient avant. Comme lui voudra, selon la connaissance du Père. Ce qui a été souligné dans les versets 42 à 44, après avoir bien clarifié que nous n'avons aucun signe pour discerner quand Jésus reviendra, que lui-même ne nous en donne aucun, et que lui-même ne le sait pas. En même temps qu'il dit qu'il n'y a pas de signe, Jésus va commencer à préparer ses disciples et nous-mêmes, si nous voulons être ses disciples. Qu'est-ce que nous devons faire dans ce monde fragile, dans ce monde en attente de sa destruction, parce que ce monde se détruit, nos corps se détruisent, en attente d'une nouvelle naissance, cette naissance éternelle qui sera la résurrection, cette venue de Jésus qui ouvrira pour ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont été serviteurs, de Jésus à une nouvelle vie, Les versets 42, Jésus mentionne que on ne sait pas quand est-ce qu'un voleur vient. Et on aurait bien aimé le savoir à l'avance, comme ça on aurait pu se préparer. De même, nous les êtres humains, on aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir à l'avance quand Jésus reviendra, afin de ne pas avoir à faire la volonté de Dieu. Car on peut se dire, puisqu'il a sauvé le voleur quand il était sur la croix, en lui disant à ce voleur qui se repentissait, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis, on pourrait devenir fainéant en disant, Jésus revient dans 20 ans ? Bien, j'ai 19 ans et demi pour faire plein de choses tordues comme je veux, et ensuite, je peux me détourner du péché, me repentir, et Jésus m'acceptera. Mais tout le but de Jésus, ce n'est pas d'encourager le mal, c'est d'encourager une véritable transformation. Et l'attente du retour de Jésus est un fondement important de notre foi, car il nous aide à marcher, en prenant conscience que notre vie pourra peut-être durer pendant 50 ans, ou bien pourra s'arrêter dans quelques heures, dans quelques secondes, dans quelques journées, dans quelques mois, dans quelques années, avec le retour de Jésus. J'aimerais vous lire maintenant les versets 45 à 51 qui soulignent un point important pour cette question: comment vivre dans un monde fragile? Comment vivre dans l'attente? Versets 45 à 51. Le serviteur fidèle et le serviteur infidèle. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donnera, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole de notre Seigneur. Nous voyons ici un maître qui est parti. On peut penser à Jésus qui a laissé ce monde à ses disciples afin que nous puissions mettre en pratique sa volonté. En même temps, nous ne sommes pas vraiment seuls, car Jésus, quand il partira, quand il ressuscitera, dira à ses disciples « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter la présence de Jésus. » Cependant, Jésus reviendra de manière encore plus frappante. Ce sera son retour. Et nous devrons être comme ce serviteur fidèle et prudent. Il est décrit avec ces deux adjectifs, fidèle et prudent. Un serviteur fidèle, c'est un serviteur qui a la foi que son maître va revenir, qui est fidèle à son maître, qui lui fait confiance. Un serviteur prudent, c'est un serviteur qui a de la sagesse, c'est un serviteur qui va éviter de faire de choses risquées, des choses qui n'ont pas de sens. En particulier, ne pas être serviteur. Car sa tâche, c'est de servir. Vous et moi avons la même tâche. Nous avons à être serviteurs, serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs du grand roi, serviteurs de celui qui va nous délivrer de la mort, si nous nous confions en lui. Ensuite, il y a un deuxième serviteur, le serviteur méchant. Observez bien comment il est décrit. Au verset 48, ce serviteur méchant dit à lui-même « Mon maître tarde à venir ». De même, nous aussi, aujourd'hui, nous pourrions dire Jésus avait dit qu'il reviendrait. On pourrait même lire de manière tordue le texte précédent que nous avons eu en disant qu'il avait dit qu'il reviendrait dans la génération présente, dans la génération juste après lui. Ce qui n'est pas le cas. Si vous lisez bien, vous voyez qu'il décrivait la destruction de Jérusalem, la destruction du temple plus précisément. Et on aimerait bien dire que Jésus a tort, parce que comme ça, après, on n'a plus à rendre de compte, on n'a plus à être serviteur, nous pouvons essayer d'être maîtres, de mauvais maîtres, des maîtres qui détruisent, des maîtres qui font du mal. Si nous observons la création, nous pouvons observer aussi comment l'humanité, quand elle est soumise à la volonté de profit uniquement, à la volonté de richesse, détruit cet espace qu'est la terre, détruit ce lieu qui nous a été donné. Comme un mauvais serviteur, nous pouvons détruire ce monde, nous pouvons détruire ceux que nous avons autour de nous, nos familles, en essayant d'être des maîtres, en essayant de dominer sur eux, en essayant de dominer sur nos épouses, nos enfants, nos parents, en refusant d'être serviteurs. La clé pour vivre dans un monde fragile, elle est toute simple. Nous avons à reconnaître que nous sommes fragiles. Comment vivre dans un monde fragile? En cherchant là où est la sécurité. Elle n'est pas en vous, elle n'est pas en moi, elle n'est pas dans nos capacités intellectuelles, elle n'est pas dans la capacité de nos bras à porter, elle n'est pas dans notre capacité à demander. Elle est en Dieu, cette force, cette stabilité. Ce monde est fragile, il a été créé de manière fragile. Il demeure quand nous sommes en relation avec Dieu. Nous sommes fermes avec Dieu. Mais si nous abandonnons Dieu, notre fragilité amènera notre mort. Et la conséquence de la fragilité, c'est la mort. Le mauvais serviteur n'a pas reconnu sa faiblesse, n'a pas reconnu qu'il était serviteur et a voulu l'oublier un instant, un temps. Et cet oubli sera lourd de conséquences pour lui, car quand son maître revient, il le détruira. Parce que cet homme n'a pas été serviteur, a refusé, il a voulu être maître. La question de tout chrétien est de savoir, est-ce que nous sommes devenus serviteurs ou est-ce que nous sommes maîtres de nos semaines? Est-ce que nous sommes devenus serviteurs de notre prochain et que nous désirons le bien de notre prochain avant nous-mêmes? Ou est-ce que nous voulons notre petite sécurité, notre bien, avant le bien des autres? C'est une question importante pour vous et pour moi. Et nous aurons à y répondre, ensemble et individuellement. Avez-vous appris à vivre dans un monde fragile? Ou est-ce que vous êtes encore en train de vous révolter en essayant de critiquer des mauvais serviteurs, critiquer des gens qui font du mal? Avez-vous reconnu votre propre fragilité? Avons-nous reconnu notre propre fragilité? Car si nous vivons dans un monde fragile, nous avons à reconnaître que nous sommes fragiles et que nous devons trouver notre fondement, notre solidité ailleurs qu'en nous-mêmes. Nos capacités sont trop limitées. Comme une petite fourmi, comme un souffle, notre vie passera. Est-ce qu'elle se sera appuyée sur ce souffle divin, le souffle de l'Esprit de Dieu, qui nous mènera à la vie éternelle, qui nous mènera à aimer dans ce monde? Parce que la vie éternelle est faite d'amour pour Dieu, d'amour partagé, d'un amour pur, d'un amour saint, d'un amour noble, tel que ce monde désire, car ce monde est en recherche d'amour, d'un vrai amour, d'un amour qui donne, d'un amour généreux, d'un amour désintéressé. Un amour de véritables serviteurs qui mettent leur maître avant eux-mêmes, qui mettent le prochain avant eux-mêmes. J'aimerais vous demander, acceptez-vous de votre fragilité? Acceptez-vous que ce n'est pas seulement le monde qui est fragile, mais que vous êtes fragile? Acceptons-nous de reconnaître la conséquence de cette réalité, notre besoin de trouver un enracinement solide, notre besoin d'un Seigneur, d'un Maître, notre besoin de Jésus pour nous guider, afin que nous puissions vivre comme si Jésus allait revenir aujourd'hui ou dans 100 ans, et que le fait de ne pas savoir ne change pas notre attitude, que notre attitude soit adaptée à ces deux possibilités. C'est ce que je vous souhaite, à vous et à moi. J'aimerais prier et vous donner une minute pour réfléchir par rapport à votre fragilité. Est-ce que vous l'acceptez ? Je ne suis pas en train de parler de péché. Le péché, on le confesse et on le remet à Dieu et on demande à Dieu de nous aider et de nous guider. Et en même temps, nous avons à reconnaître que c'est dans la foi que la solution viendra, en faisant confiance à Dieu et qu'il nous permettra de marcher par sa grâce, libérés du péché. Non pas par nos forces, mais par sa grâce. Et nous serons alors des enfants de Dieu. Nous ne serons plus des maîtres, nous serons enfants. Des enfants aimés par un Père qui aime mieux que le meilleur des pères dans ce monde, qui aime plus que la meilleure des mères de ce monde. Car notre Dieu est un bon Dieu. Où en êtes-vous dans votre fragilité? Où en sommes-nous? Sommes-nous prêts? Sommes-nous des bons serviteurs? Avons-nous appris à veiller? Ou est-ce que nous nous sommes endormis sur une apparente solidité? Sur une apparence de durabilité dans ce monde? Prions ensemble et juste après cette prière, je vous laisse une minute pour méditer, chacun, par rapport à cette question importante. Seigneur Jésus-Christ, nous vivons dans un monde fragile. Il était fragile en ton temps. Le temple de ton corps était fragile, on a pu le détruire. Le péché, le démon a pu manipuler des personnes et tu as été détruit, on t'a crucifié. Mais toi, de ce corps fragile, tu as fait sortir la solidité, la puissance de Dieu par ta résurrection, le troisième jour. Et nous voulons croire, Seigneur, que nous aussi nous pourrons participer à cette résurrection si nous nous confions en toi, si nous marchons par la foi, si nous sommes serviteurs. Je te prie que tu bénisses mes frères et sœurs ici présents aujourd'hui, qu'ils ou elles puissent discerner ce qu'il en est de leur fragilité, ce qu'il en est de leur service, ce qu'il en est de notre service. Nous t'offrons cette minute, Seigneur. Parle-nous, guide-nous. Amen. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Nous voulons apprendre, apprendre à être serviteur, apprendre à veiller, apprendre à marcher, à être des vrais disciples qui marchent chaque jour de notre vie, afin que chaque jour nous soyons prêts à ce que tu viennes, afin que nos cœurs soient prêts et que nous ne soyons pas pris dans le péché, mais dans une des tâches faites à ton service pour aimer notre prochain, pour aimer ceux que tu nous as donnés à aimer, qui sont autour de nous, nos proches prochains, ceux qui font partie de nos familles, ceux qui font partie de nos communautés, ceux qui font partie de la petite île de la Réunion et au-delà. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ. Apprends-nous à être serviteurs, toi qui étais soumis à ton Père jusqu'à la mort, toi qui nous as montré le chemin. Enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ, à vivre dans un monde fragile. Enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ, comment vivre notre fragilité en mettant notre main dans la main du Père, afin que nous puissions sentir sa force, sentir sa bonté, sentir sa tendresse et la vivre chacun des jours de notre vie. En ton nom je prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen.